Bonjour Ilios Kotsou.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes docteur en psychologie, chercheur dans le domaine des émotions. Vous vous intéressez de près au bonheur, à la méditation de pleine conscience et vous faites l'éloge de la lucidité. Bref, vous avez pas mal de choses à nous transmettre en ce début d'après-midi. Alors c'est parti.
La première.
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça.
Pascal Claude.
Qui sommes-nous? Des êtres qui se posent un tas de questions, questions essentielles et existentielles. Par exemple, celle-ci. Comment être heureux? Comment atteindre le véritable bonheur? Avons-nous besoin de spiritualité pour cheminer jusqu'à la joie? Qui sommes-nous? Des êtres traversés par des émotions, mais aussi des courroies de transmission. La transmission qui serait le propre de l'homme. Qu'est-ce que transmettre? Comment transmettre? Et que faut-il transmettre? Ces questions, ce dimanche, nous les explorerons. Nouvel horaire? Nouveau format pour aider Dieu dans tout ça, nous avons désormais rendez-vous chaque dimanche, juste après le journal de 13h. Soyez les bienvenus.
Le magazine des philosophies et des religions, sur la première.
Ilios Kotsou, c'est donc avec vous que nous allons inaugurer cette nouvelle formule. Vous êtes notre invité jusqu'à 14h. Sur la première, nous allons parler du chemin vers le bonheur, de la transmission. Mais j'aimerais que nous commencions à évoquer la vie intérieure. Vous en parlez beaucoup de la vie intérieure. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie, la vie intérieure?
Alors la question de la vie intérieure, c'est que nos comportements, en fait, notre manière d'être au monde, d'être avec les autres, d'être avec la vie, elle part de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et cette dimension essentielle de la vie, puisqu'elle est présente chez chacun d'entre nous, elle est souvent négligée. C'est un peu comme si on avait un jardin intérieur, mais qu'on le connaissait très mal, qu'on y passait très peu de temps, et que ce qui nous ramène à la vie intérieure, malheureusement, ce sont bien souvent les accidents de l'existence. C'est lorsque on a une crise importante, ou lorsqu'on est dans un problème de santé mentale important, à ces moments-là, parfois, on se retourne vers la vie intérieure. Mais parfois, à ce moment-là, on la connaît tellement mal, c'est un endroit où on a été tellement peu, qu'on est un petit peu désemparé. Mmh. Et la question de la vie intérieure, c'est comment prendre soin, au fond, d'une dimension fondamentale de l'existence pour notre bien-être, tant que ça va bien, si c'est possible.
Vous avez parlé de jardin, ça se cultive donc la vie intérieure?
Oui, comme toutes les métaphores, elles sont toujours imparfaites, mais je dirais oui, j'aime bien cette métaphore du jardin. En tout cas, le contact avec notre vie intérieure se cultive, on pourrait dire quelque part. Un point de vue, ce serait de dire qu'au fond, les potentialités qui sont chez chacun, chacune d'entre nous. Cette capacité d'émerveillement, de générosité, de lien, je pense qu'elle existe chez tout le monde. Mais alors, la question de cultiver, c'est que certains d'entre nous, on en est tellement coupés que oui, il nous faut prendre du temps, un peu comme quelqu'un qui a laissé cette terre friche tout à fait abandonnée.
En jachère.
En jachère, exactement. Et comment repartir à l'exploration de la vie intérieure pour la connaître, pour la cultiver et pour permettre à toutes ces belles choses de fleurir.
Première étape, peut-être, c'est de se connecter à cette vie intérieure.
Exactement.
Comment est-ce qu'on fait, Ilios Kotsou?
Et je crois que pour se connecter, la toute première étape, c'est de s'arrêter. Et c'est de prendre conscience que cette dimension existe. Et au fond, beaucoup d'entre nous, nous sommes mus d'abord par l'urgent plutôt que l'important. Pour moi, la vie intérieure, c'est vraiment de l'important, mais ce n'est pas de l'urgent. Et on est tellement sollicité. Sollicité parfois par l'ensemble d'une vie bien occupée, mais aussi par de l'information continuelle, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et en même temps, on est aussi souvent tellement déterminé par nos habitudes, par notre passé. Et la question, c'est comment est-ce que je peux m'arrêter? Et en m'arrêtant, tourner mon regard plutôt vers l'intérieur en me posant
donc
la question.
Il faut se déconnecter pour mieux se connecter à sa vie intérieure?
Oui, je crois que c'est une bonne manière de le dire. Il faut pouvoir se déconnecter de capteurs d'attention pour se reconnecter à la vie intérieure qui, elle, ce n'est pas une invitation à une forme de nombrilisme ou de coupure du monde. C'est que lorsqu'on est très bien connecté à sa propre richesse intérieure, on est mieux connecté aux autres et à la vie aussi.
Et la paix intérieure, elle existe?
Alors à nouveau là, je pense que si la paix intérieure c'est une forme d'idéalisation où tout à coup on est un peu la caricature de ce qu'on appelle quelqu'un qui est zen, je n'y crois pas trop évidemment. On est mu par des courants, et des courants dans cette vie intérieure, des courants que sont les émotions qui sont eux-mêmes déclenchées par les accidents et les expériences de la vie. Et donc si la paix intérieure c'est une vie sans courant, tout à fait immobile, non, ça n'existe pas. Par contre, si ce qu'on appelle la paix intérieure c'est une capacité à accueillir les mouvements de la vie de manière davantage apaisée, c'est-à-dire, je crois qu'on peut apprendre à être apaisé face aux tempêtes de la vie. Je ne sais pas si ça a du sens dit comme ça. Et donc, ça ne veut pas dire ne pas avoir de tempête. Ce n'est pas possible, ça ne dépend pas de nous. Mais c'est comment nous rentrons en relation avec tout ça. Et je crois qu'il y a des personnes qui peuvent cultiver une présence intérieure qui leur permettent d'accueillir tout, y compris les émotions les plus difficiles, les tempêtes les plus terribles, et trouver un apaisement dans cette manière d'être au monde. Oui, je crois que c'est possible.
Ilios Kotsou, dans votre livre « Éloge de la lucidité », vous citez le poète Khalil Gibran qui dit ceci. Il est en moi un ami qui me console à chaque fois que les maux m'accablent et que les malheurs m'affligent. Celui qui n'éprouve pas d'amitié envers lui-même est un ennemi public et celui qui ne trouve pas de confident en lui-même mourra de désespoir. Qui est le confident, l'ami qui est en vous, Ilios Kotsou ?
Alors le confident, pour moi évidemment, c'est moi. Et donc, dans cette phrase de Khalil Gibran m'invite à me déposer et à prendre le temps de prendre soin de moi. C'est-à-dire que si je suis complètement tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire dans une forme de comparaison sociale, de recherche continuelle d'approbation des autres, et j'ai passé une grande partie de ma vie comme ça. Vraiment. Donc, dû à mes blessures d'enfance, dû à des difficultés, qui étaient en même temps un moteur de résilience, mais en même temps, je cherchais l'approbation vraiment dans le regard des autres. Et cette forme-là, c'est une grande fragilité, au fond. Ça veut dire que la valeur que je m'attribue, je ne la trouve que dans ce que me renvoie l'environnement.
Mais donc, il faut apprendre à se parler à soi-même ? À oui. S'écouter.
Oui, oui, c'est ça.
À dialoguer avec soi.
À dialoguer avec soi si on veut. C'est pas tellement une question de manière verbale de parler, mais oui, il faut prendre le temps de se déposer, de reconnaître nos beautés. Mais ça commence souvent par reconnaître nos manques, nos blessures, et avoir une relation avec soi-même qui est faite un petit peu moins d'ignorance, qui est souvent le cas la plupart d'entre nous, on ignore la vie intérieure. Et puis le deuxième pas, c'est que souvent fait d'exigence. L'exigence, on est souvent l'ennemi impitoyable de soi-même, on est souvent le juge le plus terrible. Et malheureusement, le fait d'être ce juge impitoyable envers nous-mêmes, et c'est ce que dit Khalil Gibran, nous amène à être un juge impitoyable envers les autres. Et avoir cette forme d'amitié envers soi, ce n'est pas du tout une invitation laissée aller, ainsi de suite, ça n'a rien à voir. C'est que lorsque je me regarde avec davantage de tendresse, je peux aussi le faire avec davantage de lucidité et me rendre compte, bien sûr, qu'il y a des comportements qui ne conviennent pas, qu'il y a des comportements à changer, mais ça part d'une relation à soi qui est une relation apaisée.
Il faut être doux avec soi-même ?
Oui, je crois que, dit comme ça, je souris aussi parce que ça peut avoir l'air particulièrement niais quand on le dit comme ça. Et en même temps, il y a aussi des recherches scientifiques, s'il fallait ça montrer à des personnes, qui nous montrent que le fait d'être dur envers nous-mêmes n'est pas quelque chose de positif, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Et que l'idée, en fait, lorsqu'on dit être doux avec soi-même, l'objection principale qui viendrait aux personnes, c'est que la douceur est assimilée à une forme de complaisance.
Est-ce qu'il y a une place pour la spiritualité au cœur de la vie intérieure ?
À nouveau, ça demande toujours une définition, ça dépend de ce qu'on appelle spiritualité. Pour moi, oui. Évidemment, la vie intérieure, c'est la vie spirituelle. Alors, si on appelle spiritualité religion, dogme, bien sûr que non, parce que pour moi, le dogme, c'est le contraire d'une vie intérieure riche. La question du dogme, c'est être dogmatique, c'est de croire ce qu'on nous raconte, ce qu'on veut croire soi-même. Donc, c'est une question d'attachement à des croyances, à des pensées. Pour moi, une vie intérieure riche, c'est ne pas croire quelque chose, c'est l'expérimenter.
Mais qu'est-ce que c'est alors la spiritualité selon Ilios Kotsou ?
Oui, parce que c'est pas, je ne prétends pas la connaître. Alors, si on revient un petit peu au mot, la spiritualité, elle renvoie au mot esprit. Et donc, l'esprit, notre vie intérieure. Et la spiritualité, ça serait le fait de tourner notre attention à 180 degrés vers cet esprit qui est quelque part la source de notre présence au monde, et d'avoir une attention à notre propre esprit. Et donc, c'est une manière de connaître notre propre esprit et puis de cultiver une relation positive avec le monde. Et donc, c'est connaître son esprit, la spiritualité. Le début de la spiritualité, quelque part, c'est cette attention à nous-mêmes qui nous permet de connaître notre propre esprit. Est-ce qu'il y a une chose plus importante que de connaître notre esprit ? En fait, quelle que soit notre vision du monde, si je suis quelqu'un qui m'intéresse aux autres, à un enfant, à une vie professionnelle, quelque part, quoi qui m'intéresse, cela part de mon propre esprit. Quelle ignorance dans laquelle j'ai été moi-même que de passer des années de ma vie sans m'intéresser à mon propre esprit.
Je vais changer un mot et je vais vous poser une question presque similaire. Est-ce qu'il y a de la place pour Dieu, pour un Dieu au cœur de la vie intérieure ?
Alors, c'est ça, c'est une question difficile que vous me posez là, parce que très certainement, alors si c'est une question générale, est-ce que vous me la posez à moi ou en général ? Si c'est une question posée de manière générale, je dirais très certainement, voir le nombre de personnes qui ont une relation avec Dieu. Pour moi, alors, alors, nous, une question de mots, moi. Mmh. Un dieu qui est à l'extérieur, sous une forme, qui serait comme un être humain à l'extérieur, qui aurait créé quelque chose. Moi, ce n'est pas ce que j'expérimente. Mais je crois que le dieu que certaines personnes vivent, si quelqu'un a une expérience qu'il peut appeler dieu, qui est vraiment une expérience personnelle, bien sûr que c'est la vie intérieure. Et donc, cette forme de, je dirais, la différence entre un mystique et un dogmatique, à nouveau, le mystique dans le sens noble du terme, c'est quelqu'un qui a une expérience qu'il peut appeler Dieu. Ça l'amène plutôt à avoir une vie intérieure riche, et une relation riche et tolérante envers les autres. Quelqu'un de dogmatique, mais ça peut être quelqu'un de dogmatique tout à fait anti-religieux, mais c'est la même chose. Oui. C'est quelqu'un qui s'attache à des croyances. Et dans ce cas, c'est la porte ouverte à toutes les intolérances, et pour moi, une vie intérieure riche, elle ne va pas avec un dogme, elle va avec une expérience et une forme de lucidité.
Voilà. Vous êtes un peu mystique, vous ?
Oui, mystique, alors pas, je ne l'appellerai pas Dieu pour moi, mais si la mystique, une expérience intérieure. Mmh. Mais cette expérience-là, étonnamment, quand vous me parlez de mystique, moi je ne la vis pas avec moi tout seul. Je la vis en général au contact de la nature et des autres. Et donc ce sont des moments de connexion très forts que je peux avoir face à la beauté de la nature. J'ai eu des expériences extraordinaires. Mais pour moi, je n'ai pas besoin d'y rajouter quelque chose d'extérieur qui serait je ne sais pas où. Non, c'est une expérience très forte que je vis au contact de la nature et qui me traverse. Et c'est par exemple un sentiment de lien où je me sens profondément non séparé du monde dans lequel je suis. Et que j'ai pu vivre aussi avec des personnes. C'est aussi une attitude qui nous amène, par exemple, aujourd'hui, et c'est pas moi, ce sont des milliers de Belges, à considérer que les réfugiés qui sont là, mmh. eh bien, on n'est pas séparés d'eux. On se ressemble tellement. En fait, ce qui nous sépare, bien souvent, c'est seulement la couleur du passeport ou l'absence de passeport, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux. Et qu'au fond, ce sont des personnes qui, comme vous, comme moi, cherchent le bonheur, cherchent à être heureux et souvent plein de bonnes intentions. Pas tous les êtres humains, mais pour avoir des mauvaises intentions, il ne faut pas être réfugié. Je connais beaucoup de gens qui sont belges, grecs, français, et ainsi de suite, qui ont un nom de mauvaise. Donc, on n'en trouve pas plus chez les réfugiés. Mais donc, ces réfugiés-là, ce qu'on rencontre, ce sentiment de connexion qui vient peut-être aussi d'une vie intérieure, nous permet de reconnaître d'abord notre commune humanité, et peut-être alors de participer à construire un monde davantage inclusif, davantage ouvert.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h le dimanche.
Sur la première.
Ilios Kotsou, fin 2017, vous avez publié avec d'autres un livre sur la transmission, transmettre ce que nous apportons les uns les autres, c'est le titre de cet ouvrage. Qu'est-ce que la transmission, Ilios Kotsou, dit de chacun d'entre nous ?
Je crois que ce que la transmission dit de fondamental, c'est que elle nous met face à ce que nous incarnons vraiment. Et donc la transmission, elle nous montre que ce que nous racontons, ce que nous nous racontons, ce que nous voulons bien raconter aux autres, pour finir, n'a pas beaucoup d'importance. Ça, c'est de la communication. On peut communiquer, c'est passer une information dans l'espace, on peut la communiquer quelque chose à quelqu'un, on peut mentir en communiquant, même ne pas mentir, penser quelque chose, et au fond, ça peut être tout à fait anecdotique. Par contre, transmettre, c'est quelque chose qui va rester dans le temps, qui va s'inscrire. Et nous ne transmettons pas ce que nous pensons, ce que nous racontons, nous transmettons ce que nous vivons, ce que nous incarnons. Et donc, quelque part, la transmission, pour moi, elle nous met face à notre responsabilité, de tout ce que nous transmettons inconsciemment, on ne le fait pas toujours consciemment, et de tout ce que nous pouvons choisir de transmettre. Et donc, c'est une question de responsabilité.
Est-ce que nous pouvons transmettre ce que nous n'avons pas reçu, Ilios Kotsou ?
Heureusement que oui, bien sûr, je crois qu'on peut transmettre ce qu'on n'a pas reçu. Et en même temps, je pense qu'il est très difficile de transmettre ce qu'on n'a pas expérimenté. Et donc, je n'ai peut-être pas reçu quelque chose. Voilà, j'ai pu avoir une enfance difficile et ainsi de suite. Mmh. Dans mon cas, par exemple, j'ai perdu mes deux parents relativement jeunes. On a 16-17 ans. Il y a certainement des choses que je n'ai pas reçues, mais que j'ai pu par la suite cultiver dans ma vie. Et j'espère pouvoir, par cette attention-là, les transmettre à ma fille. Mais ça m'a demandé de traverser mes difficultés. Si je ne les ai pas traversées, je crois que ce que je transmets, c'est uniquement mon incapacité à faire face à certaines choses dans la vie.
Est-ce que l'on peut transmettre des éléments de sa propre vie intérieure à d'autres ?
Oui, évidemment, puisque notre vie intérieure, c'est quelque chose qui est fondamental et qui nourrit notre présence. Et le premier vecteur de transmission, c'est la présence.
Vous évoquez aussi dans ce livre que la musique est sans doute l'une des formes les plus puissantes et les plus universelles de transmission.
Oui, je trouve ça extraordinaire. Hein. La barrière de la langue, elle est là parfois lorsqu'on veut communiquer avec quelqu'un, même si on peut trouver tellement de moyens créatifs. Et la musique, elle nous touche quelque part directement au cœur, directement à l'âme. Et donc, quelles que soient les cultures, cette musique, elle peut nous toucher, donc elle peut transmettre quelque chose. Et je crois là aussi, alors que la communication passe bien souvent par des mots, la transmission passe par des sentiments. passe par des émotions. Et la musique n'est-elle pas un merveilleux vecteur d'état d'âme ?
Ilios Kotsou, vous êtes notre invité ce week-end dans Et Dieu dans tout ça jusqu'à 14h.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h le dimanche.
Sur la première.
C'est en compagnie d'Ilios Kotsou que nous passons ce début d'après-midi. Ilios Kotsou, vous êtes docteur en psychologie, chercheur dans le domaine des émotions. Et on dit aussi de vous que vous êtes un chercheur en bonheur. Et à propos du bonheur, nous allons entendre quelqu'un que vous connaissez bien. C'est le philosophe Frédéric Lenoir. Nous l'avons reçu il y a quelques semaines. Écoutez.
Maintenant, je suis dans un bonheur quasi permanent. C'est-à-dire que je traverse des épreuves, des difficultés, il y a des choses qui ne vont pas. J'arrive presque toujours. J'ai encore des moments de tristesse. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir un coup de blues. Mais c'est de plus en plus rare.
Il y a un secret ?
Le travail sur soi. Donc, le vrai bonheur, il est en nous. C'est dans notre manière de regarder le monde qu'on est heureux profondément et durablement.
Être heureux ou être malheureux, c'est d'abord une décision ?
Oui, je pense que c'est une décision. Alors, c'est deux choses. Ça va plus loin parce que le bonheur est aussi lié à la génétique. Donc, il y a des gens qui ont des gènes qui les prédisposent au bonheur, qui sont plutôt optimistes, qui voient les choses du bon côté naturellement, qui ont une bonne sensibilité. Puis, il y a des gens qui sont anxieux, des gens qui sont angoissés. Il y a des gens pour qui la vie est tragique tout le temps. Donc, il y a une inégalité face au bonheur. Mais après, ça, je dirais que c'est peut-être 50% du bonheur. 50%, l'autre moitié, c'est nos choix personnels. C'est ce qu'on va faire avec cette génétique, qu'elle soit positive, négative ou moyenne. Et bien, finalement, on peut progresser, on peut évoluer. Et c'est pour ça qu'on est aussi responsable de notre bonheur.
Le bonheur, ça dépend donc en partie de nous, Ilios Kotsou ?
Oui, bien sûr, ça dépend en partie de nous. Et à nouveau, comme toujours, c'est important de définir les choses. Ça dépend de ce qu'on appelle bonheur. Si le bonheur, c'est un état tout le temps positif, émotionnel positif, évidemment que ça ne dépend pas toujours de nous, puisque regardons à nouveau le monde. Qui choisit qu'un de ses enfants tombe malade ? Il peut y avoir des choses tellement plus dramatiques que ça encore qui nous tombent dessus. Et je pense que la plupart de nous, vous, moi, nos auditeurs, ont vécu de grands drames dans la vie. Il n'y a rien de plus naturel que d'être affecté par les drames de la vie. Et la question, comme le dit très bien Frédéric Lenoir, c'est comment nous allons rentrer en relation avec ça ? Alors moi, je ne crois pas personnellement à un bonheur, en tout cas ça ne me parle pas, comme une forme d'état stable dans lequel on serait tout le temps affectif. Je n'y crois pas. Parce que alors, ce serait voir le bonheur comme étant une destination. Il faut absolument que j'atteigne cet état-là dans lequel je resterai d'objectif. Je pense que c'est voué à l'échec. Les études scientifiques nous montrent que l'obsession d'un état qui serait libéré de toute forme d'émotion compliquée nous amène à être encore moins heureux. Donc la course-poursuite au bonheur, l'obsession du bonheur, ça ne marche pas. Par contre, on pourrait voir le bonheur comme étant plutôt une manière de marcher dans la vie, une manière d'entrer en relation avec les choses, quelles qu'elles soient, même les plus compliquées. Et moi, j'y vois là-dedans trois éléments qui me semblent particulièrement importants. Un qui est le sentiment de... Est-ce qu'on est dans le sentiment de manque ? Ou dans le sentiment plutôt de plénitude. Et quelque part, aller bien, même quand ça va mal, surtout quand ça va mal, aller bien avec les choses qui vont mal, c'est pouvoir se concentrer sur les éléments de notre vie qui continuent à aller bien, quand bien même une grande partie va mal. C'est-à-dire que même si j'ai perdu mon emploi, même si au niveau relationnel c'est difficile, qu'est-ce qui va encore bien dans ma vie ? Quelles sont les choses belles et comment
il faut s'accrocher à ça alors.
Oui, et pas en inventant quelque chose. C'est pas une manière naïve d'inventer ce qui n'existe pas. Une pensée positive naïve, c'est vraiment regarder de manière lucide ce qui va encore bien. Parce que, comme disait une de mes amies qui est décédée du cancer, Patricia, elle me disait, quand je lui demandais comment elle pouvait encore sourire, elle me disait, mais tant que nous sommes vivants, n'est-ce pas qu'il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal ? Le jour où ça sera le contraire, je ne serai plus là. Ça me semble un élément fondamental. Il y a un autre élément qui est le sentiment de connexion. C'est lorsqu'on va mal, on se sent isolé, coupé de nous-mêmes, des autres, du monde. Et donc, pouvoir cultiver, on parlait de vie intérieure, une connexion à soi-même, une connexion profonde à soi-même, à sa vie intérieure, et puis une connexion aux autres, une connexion à la vie, c'est-à-dire une connexion à la nature. Continuer à aller dans la nature, à se connecter à la beauté du monde. Continuer à prendre soin des autres, parce que les autres, c'est vraiment un moyen, en prenant soin des autres, non pas en se niant, prendre soin de sa vie intérieure et des autres, qu'on va nourrir ce sentiment de connexion qui va être un facteur de résilience. Et puis, il y a un élément qui me paraît aussi totalement fondamental, c'est le sentiment de cohérence. Et ce sentiment de cohérence, ce n'est pas quelque chose que l'on atteint, mais c'est comment, dans mon quotidien, je me comporte de manière cohérente par rapport à tout ce qui donne du sens à mon existence, du sens signification, du sens direction. Et donc, qu'est-ce qui est important pour moi ? Est-ce que ce qui est important pour moi, c'est participer à un monde plus équitable, plus juste, plus chaleureux ? Et dans ce cas, quelles sont les petites choses que je peux faire, mais vraiment petites, modestes, dans mon quotidien, pour pouvoir incarner ça ? Et ce sentiment de cohérence qui donne du sens à l'existence, le sentiment de lien et le sentiment un peu de plénitude vont construire une forme de, je sais pas si on peut l'appeler sérénité, qui va me permettre d'aller bien quand ça va mal. Et donc, ce n'est pas une forme d'idéalisation. C'est-à-dire,
et donc, oui, d'aller vers le bonheur ?
Non.
Non.
On ne va pas vers le bonheur, pour moi. Je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Mais ça, c'est-à-dire que je continue à cultiver...
Mais qu'est-ce que ça pourrait dire pour vous, être heureux, alors ?
Mais être heureux, c'est quelque part être lucide et ouvert. Être capable de prendre soin de soi et de ce qui est important pour soi, quelles que soient les tempêtes de l'existence. Alors, évidemment, je suis un être tout à fait commun. Évidemment que je préfère... quand les éléments de l'existence extérieure vont bien. Je préfère quand ma compagne et ma fille ne sont pas malades. Je préfère quand professionnellement ça va bien. Mais j'ai compris depuis longtemps que ça ne dépend pas de moi. C'est pas moi qui le contrôle. Et donc, cette forme de bien-être, c'est aussi accepter de laisser aller un petit peu mes tentatives de contrôle sur ce que je ne contrôle pas. Et quelque part, c'est faire du mieux que je peux pour prendre soin de moi et de ce qui compte pour moi, et de savoir que comme tout dans la vie, tout change. Tout change. Et que les difficultés à un moment se transformeront, mes états d'âme plutôt sombres se transformeront. Mais cette capacité-là, cette lucidité-là, fait que c'est un petit peu comme s'il y avait une perspective dans la vie intérieure qui allait bien, même quand tout va mal.
Frédéric Lenoir nous confiait aussi que lui, s'il s'est intéressé au bonheur, à la joie ou à Spinoza, à la méditation, c'était d'abord parce qu'il allait mal et qu'il a voulu quelque part justement connaître le bonheur, aller mieux. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ces thématiques-là, Ilios Kotsou ?
Je pense que c'est certainement un ensemble de choses. Alors là, évidemment, je réécris ma vie, puisque je ne peux pas savoir exactement. Je retourne sur mon passé. Et je crois que c'est un mélange, bien évidemment, de mes souffrances, hein, des difficultés de mon existence, mais aussi des rencontres que j'ai pu faire. Et d'une curiosité insatiable que j'avais. Depuis que je me souviens, je suis très, très, très curieux. Curieux des autres, curieux de moi-même, curieux de l'humain. Et donc, ce mélange d'expériences de vie, peut-être douloureuses, de rencontres que j'ai faites extraordinaires. Alors, certaines rencontres ont été des rencontres humaines. Je me souviens de Jean-François, un ami médecin, qui lorsque j'étais adolescent, prenait tous les mois aller chercher un livre, me donner ce livre à lire, moi qui étais un adolescent un petit peu tourmenté peut-être par certaines choses dans la vie, Milton Erickson, un hypnothérapeute américain qui était handicapé, daltonien, très handicapé, et qui était un homme extraordinaire, a été une de mes premières références. Voilà quelqu'un qui avait réussi à faire de ses handicaps une force. Et donc, le mois d'après, on se voyait, Jean-François et moi, et on parlait du livre, et il en parlait de manière comme à un égal. Et donc, voilà la question de la transmission. Il me regardait comme quelqu'un qui avait du potentiel. Il n'avait pas besoin de me le dire, je le comprenais. Mais c'est seulement longtemps après, parfois, qu'en me retournant sur mon existence, que je me rends compte, voilà quelqu'un qui a nourri, qui a arrosé le jardin qui était là, et qui a pu arroser les plantes, les fleurs, et pas seulement les chardons et les mauvaises herbes dans le jardin intérieur. Donc ça a été quelqu'un d'important pour moi.
De quoi décide-t-on dans une vie, Ilios Kotsou ?
Je ne sais pas si je suis la bonne personne à qui le demander, parce que moi je dirais de pas grand-chose en réalité. Est-ce que je décide de l'endroit ?
Je vous pose la question, c'est parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que finalement, on doit se laisser quelque part aller, qu'on a peu de maîtrise.
Oui, mais pour moi c'est le contraire de la résignation en réalité. C'est se rendre compte que de toute façon, l'endroit où l'on est né, on n'a pas vraiment choisi, on n'a pas choisi notre passeport, on n'a pas choisi nos parents, si certains vont le dire, mais difficilement le prouver. Si on a une manière rationnelle de regarder les choses, en tout cas, on n'a pas choisi grand-chose. On n'a pas choisi une grande partie de nos capacités, on ne choisit pas les émotions qui nous traversent. L'anxiété ne toque pas à la porte intérieure en disant « Tiens, je suis une anxiété, tu es d'accord pour me recevoir aujourd'hui ?» Et donc, quand on juge les gens qui ne vont pas bien, c'est comme si on pouvait contrôler ça. On ne contrôle pas les pensées qui nous traversent. La plupart du temps, nos pensées arrivent, elles débarquent dans notre esprit sans qu'on les ait contrôlées.
Alors on en fait quoi de ces pensées, de ces émotions ?
Voilà, et c'est bien ça là, où on y arrive. Personnellement, je crois que les seules choses qu'on peut vraiment influencer, ce sont ce qu'on fait de nos bras, de nos jambes, de nos pieds, ce sont nos comportements, et aussi notre regard, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur nous-mêmes, sur les autres et sur la vie. Et donc, la relation que je vais avoir avec mes pensées, mes sentiments, c'est-à-dire que avec mes sentiments, plutôt qu'une relation de lutte, une relation plutôt apaisée, prendre soin de mes sentiments, même les plus terribles. Avec mes pensées, prendre de la distance, me rendre compte que mes pensées, même les plus terribles, ne sont que des pensées. Mark Twain disait « J'ai eu de nombreux problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés.
Ouais. »
Parce que nous prenons nos pensées tellement au sérieux, surtout lorsqu'elles sont compliquées.
Vous écrivez à un moment « Il ne faut pas croire tout ce que notre tête nous raconte. »
Voilà. Notre tête, elle n'en fait qu'à sa tête. Et à croire tout ce qu'elle raconte, lorsqu'elle se trompe, et la mienne s'est trompée souvent, elle nous trompe. Et donc, elle nous amène, pour finir, elle influence nos comportements, et pas toujours dans la meilleure des directions. Et je crois que l'acceptation de tout ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est exactement le contraire de la résignation. Ça nous invite à mettre toute notre énergie sur les choses qu'on peut vraiment changer. Et alors voilà, peut-être beaucoup moins que ce qu'on rêvait, que ce qu'on imaginait. Ça nous amène à devenir beaucoup plus modestes, mais en étant plus modestes peut-être, à faire changer réellement des choses, à changer significativement notre qualité de vie et à celle des autres. C'est vouloir être un méditant pour la place du marché, du quartier, c'est ma seule ambition, plutôt qu'être un méditant cosmique, interplanétaire. Cela, évidemment, je ne sais pas si réellement il transforme les choses, ou je ne sais pas dans quelle direction en tout cas.
Ilios Kotsou, nous allons maintenant écouter Alexandre Jolien. Il est philosophe, vous le connaissez, hein, touché par un handicap moteur irréversible. Et il répond ici à cette question, pourquoi est-ce que c'est si difficile de jouir du temps présent ?
La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça.
D'une part, parce qu'on est presque programmé pour anticiper, pour repérer les dangers, c'est dans notre biologie, mais aussi là-dessus se greffe tout le vernis social pour répondre aux attentes des autres, à ses propres attentes. Ça nous coupe peu ou peu du réel tel qu'il se donne.
Pascal Claude, sur la première.
Est-ce que vous parvenez à profiter pleinement de ce début d'après-midi que nous partageons ensemble, Ilios Kotsou ?
Avec vous, vous ne me laissez pas le choix de toute façon, vous me bombardez de questions, et donc je dois être vraiment là, sinon je ne pourrais pas vous répondre. Même si j'avais rêvé préparer quelque chose, je n'avais pas de sujet, et vous allez tellement vite. Non, je trouve que c'est justement très très bien, ça me ramène à être juste connecté à ce qui est là. Mmh. Oui, alors évidemment...
C'est compliqué hein, ça dans la vie, de juste se concentrer sur le moment que nous vivons.
Oui, de toute façon, il n'y a rien d'autre que le moment que nous vivons. Mais je suis d'accord.
Mais il y a toujours notre passé qui nous rattrape et puis on pense à demain et à après-demain.
Et en même temps, heureusement qu'on est capable de le faire. N'est-ce pas une conquête extraordinaire chez l'être humain, cette capacité de s'abstraire de cette forme de réalité première, directe, sensorielle, pour pouvoir prendre les leçons du passé et pour pouvoir construire de merveilleuses choses dans l'avenir, de pouvoir se projeter, de pouvoir rêver, de pouvoir imaginer. Toutes ces capacités-là viennent de notre possibilité à être ailleurs mentalement que là où on est. Donc voilà, n'oublions pas toutes ces conquêtes merveilleuses. Alors on est bien d'accord aussi, ce que dit Alexandre Jolien, que j'adore évidemment, c'est que c'est responsable aussi d'avoir peur de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais, de continuer à être accroché à quelque chose qui a disparu depuis longtemps. Et donc pour moi la question n'est pas tant une espèce d'idéal d'être tout le temps dans le moment présent, un peu comme un légume peut-être, mais ce serait plutôt une capacité de flexibilité, d'être un tout petit peu moins dans les regrets, un tout petit peu moins dans l'anticipation et un tout petit peu plus maintenant. Je pense que c'est André Comte.
C'est pas mal de le dire, mais comment est-ce qu'on fait, Ilios Kotsou ?
On travaille un petit peu comme un muscle en réalité. Et comme toujours, première chose, la prise de conscience. Se rendre compte qu'on est tellement distrait, tellement agité. S'en rendre compte n'est pas tellement agréable. C'est se rendre compte parfois que notre tête, dans notre tête, ce n'est pas un tout petit peu de pensée agitée, c'est une autoroute. Et c'est pas agréable. Et puis par la suite, c'est comme on entraîne un muscle, c'est nous entraîner à revenir ici. Et nos cinq sens, c'est vraiment le vecteur privilégié, revenir à la respiration. Un excellent baromètre de notre état d'être. La respiration est influencée directement par nos états d'âme. Et donc, de pouvoir ici, tout à coup, se poser, je peux le faire juste maintenant.
Ah oui, allez-y.
Revenir à ma respiration, elle me dit, tiens, dans quel état je suis ? Tiens, intéressant, légèrement agité. Joyeux, mais légèrement agité. Juste là maintenant, intérieurement. Et donc, pouvoir revenir, tiens, aussi aux sensations de mes fesses sur la chaise. J'en étais un peu coupé, là, pris par toutes ces questions. Et donc, cet apprentissage très simple travaille comme le muscle qui nous permet de revenir ici. Et savourer la vie, quelle qu'elle soit, ici, c'est très concret. Savourer un verre de vin, savourer la petite main de ma fille, savourer le chant de l'oiseau, savourer la musique de notre ami Biolay. Est-ce que ça ne passe pas par une capacité à habiter nos cinq sens. Sinon, quelque part, je suis toujours avec le filtre de mes croyances, de mes attentes, ce que disait Alexandre, de mes peurs, qui va quelque part se mettre entre moi et une manière plus directe, plus brute d'entrer en relation avec l'existence. À nouveau, l'idée n'est pas d'être dans l'un ou dans l'autre, l'idée est de faire les deux, mais un être humain comme moi, il a tellement facile à se perdre, surtout dans le futur, et donc m'entraîner de temps en temps à revenir au présent, je trouve que c'est une bonne médecine que je m'applique quotidiennement.
Et l'une des solutions, c'est peut-être la méditation de pleine conscience.
Oui. Alors, quand on parle de pleine conscience, le problème, c'est que c'est peut-être tellement à la mode, et j'en fais partie, que ça finit par irriter beaucoup de monde, et je le comprends, parce que alors c'est vendu comme, voilà, ça va devenir l'injonction maintenant à l'instant présent. On avait chaque fois une injonction. C'est la nouvelle. Et en même temps, c'est le prix à payer peut-être pour quelque chose.
C'est plus qu'une mode?
Alors, je crois que c'est plus qu'une mode, bien heureusement, puisque la pleine conscience en elle-même, c'est pas tellement ça qui est important. Ce sont des mots, mais c'est cette capacité, cette invitation.
Mais qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots?
Voilà. Une invitation à habiter notre présence. Une présence sensorielle à la vie, et donc capacité à revenir ici, maintenant, à nos cinq sens, et dans laquelle on peut trouver une forme d'apaisement. Donc, on revient à cette question de vie intérieure. Et cette forme de présence, ce n'est pas seulement une présence à nous-mêmes, évidemment, mais de cette présence à nous-mêmes, c'est une évidence. Lorsqu'on habite pleinement sa présence et nos cinq sens, ça nous connecte davantage à la vie, davantage au verre de vin, davantage à la beauté de la nature, davantage aux autres êtres humains, davantage à ce qui est important pour nous. Et donc, ça fait de nous un être humain plus vivant, un être humain aussi plus généreux, un être humain plus engagé. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, dont le monde a besoin, pour un monde plus chaleureux, plus pacifique. Évidemment, et c'est important, je ne crois pas et je ne dis pas que cette forme de pratique qu'est la pleine conscience, c'est une pratique et un état d'être. Et donc une pratique parce qu'on peut, voilà, tout comme on peut aller dans une salle de sport pour cultiver le fait d'être en meilleure santé physique ou d'aller faire du jogging, on peut cultiver sa capacité à être davantage présent. C'est une pratique, mais c'est aussi un état d'être dans la vie. Et ce n'est pas par cette pratique-là la seule. Je pense qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont trouvé leur propre manière de cultiver cette présence-là. Et je crois que les manières sont infinies. Et en même temps, j'aime beaucoup cette manière de pleine conscience. Pourquoi ? Parce qu'elle est laïque. Et donc, elle ne demande pas de croyance. Il ne faut pas croire à quelque chose. C'est vraiment une pratique. L'invitation, c'est non pas de croire, mais d'expérimenter. Et donc, je pense que c'est essentiel dans un monde où on est tellement entouré et prisonnier d'idéologies avec les conséquences que l'on connaît. Et donc, elle est très simple aussi. Et je pense que la simplicité est une qualité. Alors, attention, je ne dis pas facile.
Ouais.
Je suis bien placé pour le reconnaître. Les choses les plus simples sont souvent les plus difficiles. Elles nous demandent une forme d'engagement, mais ça ne vient pas tout seul.
Elios Kotsou, vous êtes notre invité ce dimanche jusqu'à 14h. Voici sur la première Leonard Cohen, que vous aimez beaucoup. Voici Anthem.
Et Dieu dans tout ça.
Sur la première.
Il y a une faille en toute chose, c'est par là qu'entre la lumière. C'est ce que chante Leonard Cohen dans cette chanson. Et ces mots, ils vous touchent beaucoup, Elios Kotsou.
Oui, moi qui étais quelqu'un qui était coupé de sa vulnérabilité parce qu'elle était un lien avec ma souffrance et ça m'a coupé des autres. Et ces mots pour moi, ils disent, tiens, te reconnecter, te réconcilier avec ta vulnérabilité. C'est en fait te reconnecter avec le monde, avec la vie. Mais ça demande du courage et il m'a fallu du temps pour avoir ce courage-là. Et au fond, pour moi, l'invulnérabilité, si elle existe, elle est dans la totale ouverture, dans la totale vulnérabilité. C'est-à-dire que lorsque je n'ai plus rien à défendre, c'est peut-être là que je suis le moins exposé. Et ce qu'elle nous dit aussi, pour moi, ça, c'est que lorsque je m'ouvre à mes fêlures, eh bien, ça me reconnecte aux fêlures des autres. Évidemment, j'arrête de juger, j'arrête de stigmatiser. Et ça me permet à nouveau de parler en cette ouverture-là. Je me dis, ça montre la beauté du monde. Et en Belgique, on a tellement de belles choses, tellement d'initiatives. Et on en parle aussi. On critique souvent les médias, mais je crois que si on ouvre les journaux, on écoute la radio, on parle aujourd'hui beaucoup de tout ça.
Leonard Cohen, donc, sur la première avec Anthem.
La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça.
Pascal Claude.
Elios Kotsou est notre invité ce dimanche pour quelques minutes encore. Vous êtes, je le rappelle, docteur en psychologie, chercheur dans le domaine des émotions. On vous surnomme, je le disais, le chercheur en bonheur. Lui, on le surnommait l'écrivain du bonheur. Jean d'Ormesson, qui est décédé l'an dernier, nous l'écoutons.
Toutes ces questions qui portent sur où allons-nous, d'où venons-nous, elles ont été posées depuis toujours. Et nous savons depuis toujours que nous n'aurons pas de réponse. Et est-ce qu'on ne devrait pas dire ce qu'on ne peut pas savoir, peut-être que ce serait mieux de ne pas s'en occuper et de chercher quoi ? Le plaisir, le bonheur, pour ceux qui sont le plus élevés, le bonheur des autres, et ne pas s'occuper de ces questions. Et puis, il y a une petite voix en nous qui nous dit nous allons mourir. Eh bien, quand même, cette petite voix, on ne peut pas ne pas l'écouter. Le seul moyen de ne pas mourir, ce serait de ne pas vivre.
Et Dieu dans tout ça.
Vous l'écoutez, vous, Ilios Kotsou, cette petite voix?
Oui, je l'écoute.
Qu'est-ce qu'elle vous dit?
Je crois que l'événement de ma vie, en tout cas, comme dirait mon ami Alexandre Jolien de manière très directe, on va tous crever et on va tous morfler en attendant. Mm. Et je crois que les événements de ma vie m'ont amené à écouter cette voix-là. Alors plutôt celle-là, parce que la question d'où vient-on, où allons-nous, je pense que c'est pas une question fondamentale pour moi. Je reconnais chez certains amis philosophes, elle l'est. Je crois que je suis plutôt influencé par une personnalité qui est, j'allais dire le Bouddha, c'est plutôt quelque part le médecin. C'est celui qui dit qu'est-ce qu'on fait maintenant quand il y a une blessure pour pouvoir soulager la sienne et celle des autres. Je suis à 100%, ça me touche ce qu'a dit d'Ormesson, sauf quand il dit s'occuper du bonheur des autres, c'est pour les plus élevés. Je crois pas. Je crois que, en réalité, notre bonheur et celui des autres sont deux choses qui ne sont pas séparées.
Comment bien vivre avec l'idée de la mort?
Alors, je dirais un peu comme le faisait, à mon avis, pour le peu que j'en connais, les philosophes de la Grèce antique. La mort, ça n'a rien de morbide dans ce cas-là, c'est le rappel simplement à vivre plein d'entrevies. De savoir qu'on, d'abord, c'est quelque chose, on va tous y passer, on ne sait pas comment. Je ne sais plus quel écrivain français disait « c'est pas la peine de paniquer, de toute façon, nous n'en sortirons pas vivants ». Et dans ce cas-là, ça déplace la question. Et la question fondamentale alors devient, comme je ne sais pas ce qui me reste à vivre, comment est-ce que je vais le plus pleinement habiter mon existence. Et je crois que lorsqu'on est confronté à cette question positivement, ça nous amène à être beaucoup moins égoïste, à être beaucoup moins dans ces questions de qu'est-ce qu'on va montrer aux autres, qu'est-ce qu'on a à prouver aux autres, la comparaison sociale, et être beaucoup plus pleinement présent aux choses fondamentales. Et les choses fondamentales, elles sont tout aussi simples parfois que le goût de cette tasse de thé, de ce verre de vin, de cette gorgée de bière, comme disait notre Philippe Delerme. Voilà. Et aussi, elles sont tout aussi fondamentales, la gorgée de bière, que le sourire du réfugié, que la santé de notre enfant, que le bien-être de nos copains avec qui on peut partager tellement de belles choses.
À la fin de votre livre « Éloge de la lucidité », vous parlez du goût d'éternité. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est l'éternité, selon vous, Ilios Kotsou?
Alors je dirais que l'éternité, c'est important, ça paraît de l'immortalité. Parce que l'immortalité, c'est une croyance qui, pour moi, c'est purement une croyance, je n'y crois pas du tout, selon laquelle on pourrait vivre pour toujours, on ne mourrait jamais, mais c'est une évidence qu'on va tous mourir. Par contre, l'éternité, c'est cette forme d'atemporalité, on vient d'en parler, c'est dans cette gorgée de bière dont parle Delerme, il y a une forme d'éternité. Dans ce regard de l'enfant, dans ce sourire de l'ancien, dans ce chant de l'oiseau, lorsqu'on est capable d'être pleinement présent là, alors quelque part, le temps se suspend. Le temps s'arrête, nos préoccupations sont moins présentes. Comme dirait, je pense, c'est Consmonville qui disait, dans ce cas-là, ça nous permet de regretter un peu moins, d'espérer un peu moins pour le futur et d'aimer un peu plus. Et pour moi, c'est là que réside notre part d'éternité, dans notre capacité à aimer.
Allez, pour terminer, revenons-en à la question de la transmission. Dans le livre « Transmettre », vous écrivez qu'il est important de prendre le temps de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je veux donner aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux redonner? Comment est-ce que je vais partager? Qu'est-ce que vous avez envie de partager, vous, Ilios Kotsou, en ce début d'année 2018?
J'ai envie de partager le fait qu'il y a tellement de choses positives dans le monde dans lequel on vit. Il y a énormément de souffrances, de douleurs, de difficultés, ça on le savait déjà. Mais il y a énormément d'initiatives positives partout. Et prenons le temps de les regarder, prenons le temps d'y participer. Et de la même manière, il y a en nous évidemment beaucoup de douleurs. Mais il y a en nous aussi un réservoir de potentialité, de créativité, de générosité, de joie. Prenons le temps de nous y arrêter, de tourner notre regard, de cultiver ce potager intérieur extraordinaire pour pouvoir nourrir non seulement nous-mêmes, mais nourrir le monde.
Qu'est-ce que vous aimeriez léguer à ceux qui vous survivront? C'est ma dernière question.
Alors, je pense notamment à ma fille. Ce que j'aimerais bien lui léguer, c'est cette confiance fondamentale en la vie. Et en elle-même, parce que c'est pas séparé, c'est qu'au fond, que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les complications, quelles que soient les tempêtes de la vie, eh bien, il y a une perspective apaisée dans laquelle on peut se déposer et de laquelle on peut participer de manière généreuse et joyeuse à un monde plus chaleureux.
Merci Ilios Kotsou d'avoir été avec nous ce dimanche. Vous êtes l'un des co-auteurs du livre « Transmettre ce que nous nous apportons les uns les autres ». Et puis votre livre « Éloge de la lucidité » disponible en format poche. Merci à vous et bon dimanche.
Merci.
C'était Et Dieu dans tout ça. Merci d'avoir été là. Ce numéro est déjà disponible sur notre plateforme Ovio. Vous n'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires via le site lapremière.be ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé, le hashtag Et Dieu dans tout ça. À suivre sur La Première, Nicolas Blanmont et le classique des classiques. Passez une très belle après-midi avec nous.
Être heureux, c'est quelque part être lucide et ouvert, être capable de prendre soin de soi et de ce qui est important pour soi, quelles que soient les tempêtes de l'existence.